Rectangle.
Bienvenue sur Radio Rectangle.
Bonjour.
Freaksville Music Show. Benjamin Skos et à mes côtés l'excellente Clémentine March. Alors tu nous viens avec un premier vinyle, quatre titres.
Quatre titres. Merci.
Les étoiles à ma porte. Pourquoi les étoiles à ma porte?
Alors c'est une super question. D'abord c'est un nom qui m'est venu d'une façon très très inconsciente. Et je me suis rendu compte après coup que c'était sans doute inspiré par un film chinois qui m'avait marqué quand j'avais 20 ans, qui s'appelait Les démons à ma porte.
Oui, tu as fait des études de cinéma?
Oui,
je
suis monteuse de formation et de métier aussi, je fais toujours du montage quand je fais pas de la musique. Et du coup, et ce film était marquant, il était très violent, et il avait été censuré en Chine. Et se terminer, alors c'est le spoiler, je suis désolé, par le film était en noir et blanc et ça se terminait par la mise à mort, une décapitation et la tête voyait en couleur.
C'est pour ça qu'on a que la tête sur la, ta tête sur la pochette.
Ouais, c'est, ça devient un peu, cette conversation prend une tournure assez étrange. Mais ce film était tellement incroyable. Et le morceau et le titre de l'EP a été composé dans une période un peu sombre, il faut dire. C'était l'époque. La musique a été écrite avant et les paroles juste après. C'était novembre 2015 à Paris.
Ah oui.
Et bon, voilà, c'était un peu difficile cet automne-là pour beaucoup de, pas que pour moi évidemment. Voilà, et c'est resté. Donc je voulais par la chanson juste exprimer ce moment, comment essayer de se raccrocher à l'existence quand on est aussi proche de forces qui sont funestes. Et donc voilà, tout le disque est un peu là-dessus aussi, d'essayer de toujours se raccrocher à des choses belles et vives et qui dansent comme dans la chanson, et pas se laisser dans les choses moins mortifères.
Thank you. Tu passes aussi sur les chansons, parfois d'une langue à l'autre. Ça, c'est assez joli. Moi, j'aime beaucoup justement les albums où on a plusieurs langues comme ça. C'est dû à quoi ça? Parce que je vois que tu pratiques aussi l'espagnol. Enfin, c'est l'espagnol.
L'espagnol, le portugais aussi, dans voilà. Les étoiles à ma porte.
Ça, c'est le portugais, c'est comme au Brésil, hein, c'est ça. C'est la
c'est même... avec l'accent brésilien. Parce qu'en fait, moi, j'ai vécu en Amérique du Sud pendant quelques années, en Argentine et au Brésil. Et c'est une expérience de ma vie qui m'a complètement... Enfin, je ne serais pas là aujourd'hui sans ça. Notamment par la musique, par les musiques, je devrais dire, parce que c'est d'une richesse inouïe. Donc l'utilisation des langues dans le disque était vraiment liée à ma vie, puisque ça fait partie de mon identité de m'exprimer tous les jours, soit en espagnol, soit en portugais. C'était pas uniquement pour faire mon intéressante. Et donc, c'est quelque chose de très. Qui est très profond chez moi. Puis bon, maintenant, c'est l'anglais, parce que je vis en ce moment au Royaume-Uni. Donc, je voulais, avec ce disque, témoigner de cette vie dans plusieurs langues.
Et tu écris dans ces langues-là quand tu composes, ou c'est plutôt où tu adaptes? Non, tu les penses, tu les chantes, je dirais, dans la langue exprimée, ou comment est-ce que ça se passe, ton processus créatif?
Alors, mon processus créatif part toujours, et un jour j'aimerais bien que ça change, mais pour l'instant je pars toujours d'une musique et d'une mélodie, et même d'une harmonie d'abord, et ensuite je mets une mélodie par-dessus, celle qui me convient, qui me paraît intéressante, y a plein de façons de faire. En fait... Donc après, je me dis, avec ces accords de guitare, parce que je suis guitariste, ou parfois à la basse aussi, et c'est là par-dessus, comment je l'entendrais, quoi? Quelle langue, peut-être quel thème aussi, quelle serait l'approche? Et là, pour cette occasion-là, c'était vraiment... J'ai pas beaucoup réfléchi, mais par exemple, la chanson en espagnol qui est sur le disque a été composée par mon ami argentin Javier Leibuski. Donc là, je lui ai demandé de le faire en espagnol. J'avais besoin de, avec l'accent argentin d'ailleurs, dans l'élocution. Mais alors, en ce moment, j'écris. Bon, je vais bientôt enregistrer un album, mon premier album. Il sera sans doute beaucoup plus en français que là. Voilà, il n'y a pas de formule, je me dis pas, tiens, une chanson doit être en anglais, une autre en portugais.
Oui, c'est ça. Enfin, il y a quelque chose d'immédiat dans... et qui donne d'ailleurs ce charme, même parfois un peu psychédélique, dans le cas de Quiet Bee, par exemple.
Merci. Alors, en fait, j'ai la chance d'avoir un groupe, un trio avec Pierre Caron et Guillaume Magne, qui sont des amis, des musiciens sensationnels, avec qui je joue depuis longtemps, depuis 7 ans. On a cette chance d'être, de ne pas avoir trop à se parler pour se comprendre et d'être très à l'écoute et de pouvoir aussi changer tout, du tout au tout. Si un morceau nous paraît... enfin, le morceau lui-même, il est là, mais si jamais on dit « Ah, mais ça sonne pas bien, il faut qu'on change l'arrangement », ça va, c'est vraiment spontané, puis on met tout à la poubelle, on recommence. Et pour ce disque-là, on a passé 2 jours, on l'a enregistré en 2 jours en studio à Londres en avril 2016. On était avec Sid Camp, qui est un jeune producteur.
Il a travaillé, je pense, aussi avec Aqua Serge et Thurston Moore aussi, je pense.
Ah, il bosse en ce moment avec Thurston Moore pour la tournée, il fait le son.
Ah, ok.
Alors, il travaille avec Julien, en fait, Julien Gasque.
Oui, c'est l'album de Julien Gasque.
Voilà, aussi. Sur.
Désolé. Erratum.
Erratum, c'est pas pour moi. Non, c'est, l'album s'appelle. Comment il s'appelle ? Kiss Me You Fool. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés sur les sessions de cet album il y a 2 ans.
Et Vanishing Twins aussi, peut-être ?
Oui, il leur fait le son et il a enregistré le nouvel album là en studio. Et il fait de la basse avec eux aussi, en intérim, avec un autre bassiste. Ils font 2 fois 8.
Ouais, moi, je vous propose d'écouter Clémentine Marche. Et après, il faut absolument enchaîner avec Vanishing Twins, par exemple, quand on a
les deux
magnifiques vinyles comme ça.
J'adore, en plus.
C'est des gens que tu côtoies un petit peu, ça, à Londres? C'est une scène qui te plaît,
Oui.
Dans laquelle tu participes ou...
Je suis très honoré d'y participer, parce que ça fait pas si longtemps non plus que j'y vis. Et je me suis senti accueilli, mais d'une façon tellement naturelle. Au bout d'un moment, les mois passent et on se dit « Ah, mais en fait, je suis en train de jouer là, je suis en train de faire ça, je connais machin, je fais ci. » Et il y a ce côté très décontracté à Londres qui peut paraître étrange parce que c'est une capitale et puis ça a l'image d'une ville horriblement chère que c'est. Hein. Mais c'est une ville aussi dans laquelle les conditions ne sont pas faciles. Du coup, il y a un sentiment de solidarité très organique entre les gens qui n'est pas calculé, ou alors il est bien calculé. Mais, et c'est très facile de se refiler des concerts, des plans. Donc voilà, je me suis retrouvé avec des tourneurs, de faire des premières parties d'artistes américains qui étaient de passage. Et des super artistes, et voilà. Ça, je cache pas que c'était quelque chose que je vivais pas forcément avant, aussi bien à Paris par exemple, que je trouvais plus formaliste. Londres a cet avantage là. Du coup, bah oui, Vanishing Twin, Cathy, que je connais un petit peu, mais je connais surtout Phil, qui est Phil MFU, Man from Uranus, que toi
de Radio Rectangle, Man from Uranus,
tout
oui.
À fait. Notre
ami commun. Oui.
Voilà, notre ami commun que je salue ici, qui va participer à l'enregistrement de mon premier album.
Ah,
aussi.
Excellent.
Ouais, il va faire des petits synthés un peu dans tous les sens. On va
voir. Figure-toi qu'il participe également à celui de mon prochain album.
Ah, trop bien. Voilà. Il a joué avec Laetitia aussi, Laetitia Sadier.
Ah, tu longtemps. Connais bien Laetitia aussi.
Mais oui, je connais Laetitia. Et...
C'est vrai que la pochette me fait penser un peu à cet esprit. De la discographie de Laetitia, c'est ce qui est assez chouette d'ailleurs.
Et ben, il y a une raison très simple, c'est que c'est Patrice Anicott qui l'a faite. Patrice a fait le premier album de Laetitia qui s'appelle The Trip. J'ai connu Patrice par Laetitia, on est devenus très amis, très proches maintenant. Donc c'est un peu. Voilà. Voilà, il a mis son style dans ma musique. Et voilà, on a cette proximité.
Joyful glance seized my hand.
dans d'autres groupes. J'ai découvert dans ton groupe Snap Angle sur... Ankle, excuse-moi, mon anglais est pitoyable.
Non, il n'est pas pitoyable. Par contre, c'est pas pour ça, c'est parce que si tu traduis ce que ça veut dire, ankle, en fait, c'est assez rebutant. L'expression, ça veut dire cheville arrachée. C'est horrible. Et en fait, quand tu sors le nom à des Anglais, des fois, ils te regardent, bon, vous vous appelez vraiment comme ça. Oui,
j'ai découvert la radio, c'était sur BBC Six.
Oui, au mois de mai.
Oui, chez Mark Riley.
Ouais.
Et tu as d'autres groupes, donc comme ça, ça participe au mouvement aussi anglais, ça c'est...
Eh ben, alors dans ma musique, je sais pas très bien, j'ai l'impression qu'elle est déjà là, elle est différente, mais par contre, oui, des sonorités, avec Snap Ankles, je m'ouvre vachement à moi qui joue d'une façon un peu raide, très sans effet, la voix, enfin, ce que je fais toujours d'ailleurs. Mais là, avec eux, je me suis ouvert à des sons plus synthétiques, à des choses plus différentes.
Ça t'inspire aussi dans ton processus pour l'album, par exemple,
Je pense, pas dans l'écriture des chansons en elles-mêmes, qui est assez classique par rapport à ce que j'ai fait, il y a une continuité, mais par contre, dans l'arrangement, oui. Et puis bah, moi, en tant que bassiste, ça me permet de faire des pas de géant avec Snap Ankles, parce qu'on joue ce qu'on appelle du krautrock. Et donc, il y a une musique extrêmement répétitive. Donc, quand tu joues le même riff de basse pendant 6 minutes, qui est assez rapide, ben, c'est bien. Ça peut être, il faut être dans le rythme. Et c'est super. Et je joue dans un autre groupe qui m'accompagne aussi parfois pour ma propre musique, qui s'appelle Blue House. On joue un peu dans des festivals. Et c'est un groupe plus pop, plus classique d'une certaine façon. Mais là, en tant que moi-même. Je me considère quand même comme compositrice pop. Ça me donne d'autres façons de composer, donc c'est une bonne école aussi. Et là, pareil, je suis à la basse. J'ai joué aussi avec un groupe psychédélique qui s'appelle Pollyanna Valentine, qui est un ami à moi, Charlie, qui fait des... Pareil, alors lui, c'est une autre école, parce que moi, j'ai tendance à écrire avec beaucoup d'accords et de mélodies qui vont dans tous les sens. Et lui, parfois, il reste sur le même accord pendant des longues plages de temps et il faut susciter l'intérêt. Donc c'est très intéressant comme exercice.
Excellent.
Ouais.
Quiet Bee, il y a une réminiscence aussi de la musique un peu psyché, je le disais tout à l'heure, mais c'est une source d'influence. Tu as écouté ça, de la musique ça me fait penser parfois un petit peu à Syd Barrett aussi.
Oui.
C'est quelque chose qui te plaît.
Oui.
Il y a un côté aussi un peu lo-fi garage parfois dans le quelques plages comme ça, mais pas au niveau des mélodies, mais dans la production, je trouve assez intéressant.
Alors ça, il y a plusieurs choses à ça. Je suis clairement influencé par les années 60 et les années 70. C'est ma culture.
Alors, c'est quoi, par exemple, alors, Nuggets bon,
il y a Nuggets, ouais, la compilation Nuggets qui a été majeure. Bon, après, il y a des choses ultra classiques comme Jimi Hendrix ou les Beatles, hein, on va pas, et les Beach Boys, on va pas, voilà, c'est les grands noms. J'ai quand même une sensibilité qui est héritée de cette période, et beaucoup des chanteurs de musique brésilienne comme Chico Buarque et donc un amour pour cette forme d'écriture de mélodique. Après, je me considère pas comme rétro. Et j'ai grandi dans les années 90, donc j'ai aussi cette culture un peu lo-fi de cette période-là, donc un peu âpre. C'est les choses disons que c'est ma colonne vertébrale. J'essaye quand même de mettre autre chose par-dessus, donc de m'ouvrir à d'autres sonorités. Pour le son garage, d'abord c'était le choix de travailler avec Syd aussi qui m'a...
C'est un amateur de ce type de musique, je suppose aussi.
Il en joue aussi lui-même dans son propre projet, et puis il a cette façon d'enregistrer les instruments qui... il a ce talent pour faire sonner des instruments, mais d'une façon pas forcément... Enfin, je veux dire, il va pas passer 8 heures sur un micro de batterie, mais par contre il sait parfaitement comment... telle chose va répondre dans tel environnement. Et puis, c'est le fait aussi de jouer un garage aussi. Mm-hmm. Hein. On a ce son un peu garage, un peu fébrile parfois, qui est aussi mes compétences techniques, tout simplement. Donc il y a une part aussi de non voulu et qui est là de toute façon. Voilà, au bout d'un moment, ça fait partie de l'identité. Et puis avec Guillaume et Pierre, on enregistrait autrefois sur nous-mêmes nos EP avec différents groupes, et notamment celui qui s'appelait Water Babies, qui était le groupe dans lequel j'écrivais mes premières chansons avec
eux. En France, alors ?
En France, oui, à l'époque, ouais. À Paris. Et on enregistrait sur des magnétophones, des cassettes, comme on écoute à la maison, on écoutait plutôt.
Pour les jeunes qui nous écoutent, donc les cassettes sont des petites
bandes. Ah non, mais maintenant, les jeunes les réécoutent, c'est très... Je ne me suis pas remise à ça, par contre, le vinyle, oui, mais pas la cassette. Mais on enregistrait sur des 4 pistes cassettes. Et donc, pour enregistrer nos disques, il fallait que... On pouvait pas faire du montage comme sur les ordinateurs, somme logique.
Tu pouvais retourner la cassette pour avoir un effet reverse.
Oui, tu pouvais faire ça.
Mais le pitch.
On a fait des trucs de pitch d'ailleurs. Depuis, quand tu fais le pitch, c'est que tu montes la
et la vitesse.
La
aussi,
vitesse, ouais, ça rend un peu fou des fois, c'est sympa. Donc il y a un petit côté, voilà, ça peut paraître un peu un gadget vintage, mais quand tu enregistres de la musique comme ça, t'es obligé de jouer et de pas te tromper, ou pas, ou ça s'entende pas en tout cas. Je crois qu'il y a pas forcément une histoire de correction, mais c'est une histoire de, bah, il faut rentrer le morceau, il faut que ça sonne. C'est vraiment pour moi c'était la meilleure école possible et imaginable pour pouvoir faire la musique. Et donc on a cette identité là qui est très forte au moment d'enregistrer. Donc voilà, puis on a enregistré en 2 jours en live, en studio en fait, donc ça sonne.
Oui, c'est comme ça quoi, c'est une...
Ouais. Puis voilà. Et après, pour la période psychédélique, le collage de bandes, en fait, avec Sid, on a passé une bande à l'envers. En fait, c'est un chorale d'enfants de Noël anglaise, je crois des années 50 ou 60. C'est un peu space. Et donc, on a fait varier la bande. Du coup, parfois, on entend une espèce de voix comme un ours. C'est assez marrant. Voilà, après, je te cache pas que je réfléchis pas trop à ça. Je réfléchis juste en termes d'esthétique, d'être contente.
Oui, donc vous jouez, tu écoutes, puis c'est OK. ou tu refais voilà,
je refais, enfin je réfléchis, bien sûr que je réfléchis parce qu'il faut qu'on a une production, il faut quand même que...
Oui, mais
que...
t'as l'attaque de jour, de toute manière tu ne peux pas non plus...
Oui.
Ça doit être fait, le job doit être fait.
Le job doit être fait. Après, ce qui m'importe en fait, c'est vraiment de... En fait, s'il y a un truc qui m'intéresse, c'est de... Comme j'ai un amour de ces mélodies, et parfois, j'essaie juste que la musique sombre pas dans la mignonnerie insupportable. Mm-hmm. Donc, c'est vrai que j'aime bien jouer avec des sons un peu plus sales pour compenser quelque part ce côté qui peut être joli. J'ai un peu du mal avec les choses qui n'ont pas d'aspérité en général. Je n'aime pas beaucoup les choses trop cliniques. Ça, bien sûr, je les admire quand c'est...
Oui, mais c'est vrai qu'on n'est pas dans de la pop ligne claire avec ce vinyle. On est dans un processus qui est différent, qui est quand même plus rêche, quoi.
C'est plus rêche, ouais. Mais ça, je pense que ça sera...
Mais les chansons ne le sont pas, je veux dire, pas vraiment.
Oui.
C'est ça qui est intéressant, c'est que...
Merci.
C'est le mix des deux.
Je pense que oui, il y a cette idée-là de donner quelque chose qui pourrait être beaucoup plus classique et beaucoup plus... peut-être...
On n'est pas dans une production standardisée pop française, pour ceux qui... Voilà.
Non, pas vraiment.
Et comment vivent les Anglais, par exemple, que tu côtoies en écoutant ta musique? Ils aiment le français, ils comprennent, ils demandent des informations sur les textes. Enfin, tu vois, qu'est-ce qui les plaît? Parce que c'est toujours intéressant, je trouve, de confronter de la pop,
oui,
la chanson en français en Angleterre, quoi.
Alors ça, c'est une des très, très agréables surprises de ma vie en ce moment. C'est que je m'étais dit... T'as déménagé, tu vas devoir tout adapter, tout changer, machin. C'était peut-être vrai il y a 10 ans, mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une plus grande acceptation. Ou alors, est-ce que ça a toujours été comme ça? Je ne sais pas. En tout cas, il y a une grande acceptation des langues. Et en général, les gens sont très ouverts et sont super contents. On me demande parfois le sens des chansons... Parfois, je les donne très, très spontanément en concert aussi, avant de présenter, de la jouer. Et j'ai une amie, par exemple, qui vit à Bristol, qui est japonaise, qui s'appelle Yamao Arashi. Et elle marche très bien là-bas, elle tourne. Enfin, et toute sa musique est japonaise. Enfin, et personne ne lui demande de traduire quoi que ce soit. Et elle le fait pas. Elle le fait sur 2 ou 3 chansons. Mm-hmm. Ce que je fais moi-même, d'ailleurs, aussi. Et moi, je trouve ça super de conserver son identité. Enfin... Je pourrais faire ma musique en anglais, mais c'est pas ce que j'ai choisi de faire. J'ai toujours fait ça en français d'emblée, avec quelques incursions dans d'autres langues. Et voilà, donc comme pour revenir à ce que je disais, c'est une surprise de me rendre compte qu'il y a des oreilles pour ça et que c'est pas... on n'est pas obligé de standardiser ce qu'on fait en fonction de là où on est. Ça, c'est,
tout à fait.
C'est une très bonne chose.
Oui. On va te retrouver sur Radio Rectangle aussi, avec cette Rectangle Session que tu as gentiment...
Oui,
en fait, est-ce que
merci.
Tu peux nous la présenter? Il y a qui joue sur cette session?
Alors, sur cette session Rectangle, je joue avec Blue House, un groupe dont je parlais tout à l'heure. Donc, il y a Ursula Russell à la batterie, James Howard à la basse et Dimitrios Dantis au clavier et à la deuxième guitare. Cette session, on l'a enregistrée à Total Refreshment Center à Londres. Alors, c'est un endroit... qui est mythique, je peux le dire maintenant. En plus, malheureusement, mythique parce qu'il va fermer à la fin de l'année.
Ah merde.
Ouais. Alors ça, c'est un truc à Londres, franchement.
Beaucoup d'endroits menacés, quand même.
Eh ben, gentrification partout, ville qui coûte cher. C'était un entrepôt squat qui a été occupé par des pépinières, et notamment cet endroit qui organise donc des concerts, mais qui est également fait office de studio, dans lequel Snap Tanko s'est enregistré l'album. Dans lequel j'ai travaillé sur plein de projets, j'ai fait la fête, j'ai vécu, enfin on a vécu, tout le monde a vécu. Et donc ce lieu est superbe. Si jamais vous allez à Londres d'ici le 28 ou 29 octobre de cette année 2017, n'hésitez surtout pas à y aller parce que c'est les derniers moments. Après, la bonne nouvelle, parce qu'on ne va pas rester dans les trucs déprimants, c'est que le garçon qui s'en occupe, qui est français, qui s'appelle Alexis...
Qu'on salue bien fort,
qui est un type formidable. Je ne sais pas comment il fait. D'ailleurs, Alexis, je te demande comment tu fais.
Comment fais-tu, Alexis?
Comment
dis-le
tu
nous.
Fais pour faire tout ça? Comment tu dors? Mais donc, je sais qu'il prépare la suite ailleurs. Donc, ça va se transférer dans un autre endroit à Londres et qu'on aura d'autres façons de célébrer. Mais bon, voilà, ça, c'est des lieux comme ça où les artistes rencontrent. Donc, tous les artistes dont on a parlé tout à l'heure, on a tous traîné là-bas. Il y a encore ça à Londres, hein. Ça appartient pas que à des banquiers et des gens qui bossent dans la pub. C'est vraiment, y a encore des choses très spontanées et populaires qui peuvent vivre malgré ce qu'on peut, dont l'impression qu'on peut avoir parfois en
Alhambra. Et la musique qui émerge avec alors.
Oui, il y a une super scène jazz en ce moment, anglaise en général et londonienne en particulier. Et il y a encore des possibilités effectivement de vie. Après, moi, j'ai pas vécu dans les années 90 cette période-là ou avant. Et donc, les gens pourront toujours comparer. Moi, je sais pas, j'étais pas là, j'étais pas. Mais je suis pas mécontente de ce que je vois en ce moment. Je trouve qu'il y a des disques super qui sortent. Vanishing Twin, comme on parlait, Snap Ankles, je suis dedans, mais je peux quand même dire que c'est bien. Et The Comet Is Coming, un super groupe aussi de jazz un peu dansant. Il se passe des choses. Et puis là où j'habite, dans le sud de Londres, il y a une scène électro dubstep qui est assez incroyable aussi, qu'il faut encore que j'explore un petit peu mieux.
Tu vas investiguer ça, le dubstep, le grime et autres.
Le grime, exactement. Il y a une super radio. Alors, peut-être plus expérimental et intello, enfin intello, c'est pas un joli mot, mais plus cérébral, voilà, c'est le mot, qui s'appelle NTS aussi, qui passe des programmes assez incroyables, ou Resonance FM, qui est une radio coopérative avec beaucoup de gens qui ont des émissions, dont le célèbre magazine The Wire. Il y a de quoi faire à Londres, quand même, c'est une belle ville.
Merci en tout cas d'être venu présenter ton super.
Merci Benjamin.
Les étoiles à ma porte, donc, qu'on trouve en version vinyle déjà aux Ballades Sonores, ceux qui sont à Bruxelles.
Et à Paris aussi d'ailleurs.
Et à Paris aussi, donc ça c'est une super boutique qu'on salue d'ailleurs. Oui. Et puis à la rentrée normalement un peu partout. Et si vous n'aimez pas les supports physiques, malheureusement, nous le trouvons aussi dans les supports dématérialisés.
Dématérialisés, ouais.
Nous on préfère évidemment.
Oh, c'est plus joli quand même.
Ouais, les trucs un peu en dur. Ouais. Mais enfin, on le trouve aussi également sur les Spotify et autres, Deezer et autres plateformes.
Bandcamp.
Et le Bandcamp évidemment, Freaksville.
De Freaksville.
Entre autres. En tout cas, merci pour cette session rectangle qu'on va.
Merci beaucoup Benjamin.
Découvrir et pour ce podcast. Et à tout bientôt.
À tout bientôt, merci. Rectangle.